Madrid, Moscou.
Je crois aux forces de l'esprit.
Pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Des actes. L'alignement des actes.
À ta place, en façon, des burgatous.
Time will tell.
Russe Europe Express.
Jacques Sapir.
Clément Olivier.
Gilets jaunes pour colère noire, la peur bleue d'une taxe verte, la mobilisation des automobilistes est sur toutes les lèvres et sur toutes les unes et recueillerait un soutien grandissant auprès de la population selon certains sondages. Alors, petit malin que nous sommes, ni beauf d'extrême droite comme dirait l'un, ni bobo déconnecté comme diraient les autres, on a décidé de traiter cette actu brûlante en sujet de fond. La fiscalité écologique s'oppose-t-elle forcément au pouvoir d'achat? Est-il possible de réconcilier l'urgence écologique et l'urgence sociale? Comment taxer le carbone de façon cohérente? Peut-on vraiment mener une politique d'incitation sans proposer d'alternatives? Et justement, quelles alternatives existent? Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Avec nous aujourd'hui pour en débattre, Nicolas Meillant, bonjour.
Bonjour.
Consultant dans le domaine du transport et de l'énergie, vous êtes membre des Éconoclastes. En face de vous, Nicolas Raillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à Shift Project. Shift Project qui est un think tank qui développe des solutions concrètes pour décarboner l'économie. Alors Jacques Sapir, votre mot d'intro, cette augmentation de la taxe sur le carburant, elle vous rappelle un souvenir d'il y a quelques années?
Évidemment, la révolte des Gilets jaunes repose le problème de quelle tarification le gouvernement devrait adopter pour le carbone, qui est justement contenu dans le carburant. Et alors, on se souvient qu'en octobre et novembre 2013, le gouvernement socialiste de l'époque s'était heurté à un problème plus ou moins identique avec la question de l'écotaxe et le mouvement dit des bonnets rouges qui s'en était suivi. Alors, on avait montré d'ailleurs à l'époque que l'écotaxe était assez mal calculée et surtout fort mal pensée dans une note que j'avais publiée sur mon blog Russe Europe. En réalité, l'écotaxe révélait des incohérences, mais aussi des dérives importantes dans l'action de l'État, dérives aboutissant à recréer, en fait, ce qu'on peut appeler une ferme des impôts, comme sous l'Ancien Régime. Donc, l'argument écologique avancé par le gouvernement est un argument absolument réel, mais il peut néanmoins un petit peu surprendre de la part d'un gouvernement qui, justement, vient de donner son autorisation de forage à la société Total en Guyane, divise par deux le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ce qu'on appelle le CITE, et puis désaffecte, grosso modo, 600 millions d'euros de la fiscalité dite écologique pour renflouer le budget et pour compenser d'autres baisses d'impôts. On le voit, la cohérence n'est pas exactement du côté du gouvernement.
Bon, mais il faut bien taxer les émissions de carbone, Jacques Sapir.
Oui, et cela, je pense que personne ne le conteste, y compris les Gilets jaunes. Alors, un problème analogue se présente, en fait, si vous voulez, quand on regarde l'ensemble des taxes qui pèsent sur le carburant. Personne ne peut raisonnablement objecter à la nécessité d'une telle taxe, appliquée d'ailleurs sur la totalité des carburants, c'est-à-dire y compris le kérosène des avions et le fioul lourd des navires. Mais il faut aussi reconnaître l'existence de déplacements contraints, en particulier pour le travail, que l'on soit salarié ou travailleur indépendant. Et sur ces déplacements contraints, toute taxe n'aura aucun effet d'incitation pour le consommateur, car ce dernier, en réalité, quand il vit dans des zones qui sont particulièrement sous-équipées en transport en commun, quand il vit dans des zones à relativement faible densité, eh bien, ce dernier n'a pas le choix de son moyen de transport. La taxe se transforme alors en un prélèvement sur le budget des ménages, qui plus est, cette taxation pèse aujourd'hui sur les ménages les plus modestes. Vous savez, on a montré que l'ampleur relative évidemment aux revenus de ces taxes était 40 fois plus importante pour le dernier décile que pour le premier décile dans la distribution des revenus en France.
Et alors, quelle solution vous semble envisageable ?
Plusieurs types de solutions sont possibles. Alors évidemment, il va falloir distinguer là les solutions de très court terme à des solutions de plus long terme, voire à des solutions structurelles. Mais dans le cadre des solutions de très court terme, on pourrait penser l'attribution d'un chèque forfaitaire couvrant le surcoût lié au transport contraint par les travailleurs. Ce système pourrait être étendu au transport de marchandises de proximité. Une solution de ce type a d'ailleurs été proposée par certains partis politiques. Elle reviendrait à prendre en charge uniquement le coût de la taxe carbone, taxe dont le montant pourrait alors être augmenter pour les autres utilisateurs. Le problème de trésorerie posé conduirait à un chèque évidemment mensuel qui pourrait être directement versé sur le compte des intéressés par l'administration fiscale. C'est évidemment la solution la plus rapide à mettre en œuvre, mais elle implique que l'État vous donne ce que vous allez lui rendre, ce qui n'est pas non plus d'une très grande logique. Alors, on voit bien que d'autres solutions sont tout à fait possibles, et je pense en particulier à l'utilisation d'un paiement par carte bancaire du carburant, avec un prix du carburant qui serait grosso modo maintenu relativement bas, justement pour couvrir ces fameux transports contraints, et qui après augmenterait de manière rapidement plus que proportionnelle avec le nombre de kilomètres parcourus.
Et alors oui, attardons-nous d'abord un instant sur ce qui nous donne l'occasion de parler de tout ça, savoir cette augmentation de la taxe carbone sur l'essence et le diesel. Nicolas Meillon, elle est prévue donc par le gouvernement. Jacques Sapir évoquait finalement un sentiment d'injustice fiscale. Est-ce que c'est ça le substrat de cette colère populaire, même si ça n'est pas forcément toujours formulé comme ça par les gilets jaunes eux-mêmes?
Alors je crois que effectivement aujourd'hui c'est un peu la goutte. Qui fait déborder le vase, la goutte de diesel qui fait déborder le vase. Il faut savoir déjà que cette taxe carbone, la trajectoire a été décidée en 2014-2015, donc ce n'est pas le gouvernement actuel qui l'a mis en place. Le problème qui se pose, c'est qu'en 2014-2015, le prix du pétrole a beaucoup chuté, et que là se combinent trois effets, l'augmentation du prix du baril de pétrole, le rééquilibrage entre la fiscalité sur l'essence et sur le diesel, et le troisième effet, qui est finalement celui qui contribue le moins, qui est cette contribution carbone qui augmente. Une des solutions, je pense que le gouvernement devra sans doute faire, sur la fiscalité diesel-essence pour les entreprises. Il a choisi d'aligner la fiscalité essence sur le diesel, c'est-à-dire qu'avant, seul le diesel, on pouvait récupérer la TVA que sur le diesel à 80% et pas sur l'essence. Et en 2022, ce sera aussi le cas pour l'essence. Il pourrait aujourd'hui décider, comme il le fait pour les entreprises, de aligner la fiscalité essence sur la fiscalité diesel pour alléger un peu le poids et tout en continuant d'augmenter la contribution carbone comme c'est prévu. Je pense que ce sera un signal, à mon avis, important, nécessaire, mais qui sera sans doute, bien évidemment, pas suffisant puisqu'il ne s'agit pas que de diesel, d'essence, mais d'un rabot fiscal et surtout de personnes aujourd'hui, qui, pour pouvoir aller travailler, doit faire des compromis sur leur alimentation.
Bien sûr. Avant de faire réagir Nicolas Rayard, votre avis sur les mesures de compensation annoncées par Édouard Philippe, la prime à la conversion, l'aide kilométrique, le chèque énergie?
Alors, je pense qu'il y a la question, c'est l'application et le ciblage des mesures. Par exemple, ils ont annoncé un remboursement, notamment sur le covoiturage, à hauteur de 400 euros par an. Ce qui revient finalement à, comme aujourd'hui votre entreprise vous paye la moitié de votre titre de transport en commun, le covoiturage c'est du transport en commun, il n'y a pas de raison que ce soit payé, et la bonne nouvelle c'est que ce serait remboursé par les entreprises, donc ça c'est pas l'État. L'autre mesure annoncée c'est la fameuse prime à la conversion. Alors la prime à la conversion aujourd'hui, le problème c'est qu'il faut s'assurer qu'elle va cibler des véhicules qui consomment moins de carburant, donc qui sont plus légers, qui sont moins puissants. Et surtout, il ne faut pas avantager les véhicules qui polluent. Alors que c'est le cas aujourd'hui. On vous donne aujourd'hui 2000 euros et demain 4000 euros pour vous acheter un diesel Euro 5 qui sera interdit à la circulation à Berlin l'an prochain. Donc il faut bien cibler ces aides de prime à la casse. Un des problèmes de la pollution atmosphérique en ville, ce sont les particules. Le principal contributeur, ce sont tous les véhicules qui n'ont pas de filtre à particules. Donc soit on fait comme à Tokyo en 2003 ou à Berlin en 2010 et on les équipe de filtres à particules, ou soit on se débrouille pour les remplacer et que les personnes qui doivent accéder aux villes, qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, puissent continuer à accéder.
Nicolas Rayard, je parlais d'injustice fiscale tout simplement parce que cette augmentation de la taxe, elle pourrait rapporter entre 3 et 4 milliards. C'est à peu près ce que va coûter la quasi-suppression de l'ISF. Est-ce que vous pensez que c'est ça la question sous-jacente dans cette mobilisation? Et puis votre avis sur cette taxe, est-ce qu'elle est indispensable mais qu'elle donne l'impression d'un Robin des Bois à l'envers?
Alors, je pense que pour bien comprendre ce sentiment d'injustice, il faut comprendre comment les gens utilisent l'énergie, notamment le pétrole et le gaz, c'est-à-dire ces énergies qui vont être taxées et dont le montant de la taxe va augmenter avec les années, dans leur vie, parce que la consommation d'énergie est très intriquée à nos modes de vie. Et alors dans ces zones-là, qui sont plutôt périurbaines et rurales, où le mouvement Gilets jaunes débute, eh bien, est caractérisé donc par un milieu plus dense, qui a été façonné finalement au début, à partir des années 60, on va dire, par et pour la voiture. Et c'est dans ces milieux-là, les gens vivent dans des maisons individuelles principalement, donc... On n'a pas parlé de chauffage, mais c'est aussi une dépense, le chauffage au fioul ou au gaz, qui compte dans le budget des ménages. Et d'un point de vue mobilité, on a effectivement un milieu peu dense qui est peu adapté au transport en commun. On a des distances à parcourir plus longues, donc la voiture devient indispensable. Et c'est tous ces usages qui vont être taxés de plus en plus. Alors la notion de mobilité contrainte est en effet un point clé. Il faut bien voir que cette notion-là, il y a eu des études sociologiques qui ont été menées en Angleterre, notamment pour voir comment les gens parlaient d'énergie. Mmh. Et en effet, l'énergie est vue comme un besoin fondamental, on va dire, un besoin de base à assurer. Dès lors qu'il s'agit, notamment, c'est dès lors qu'on touche à la dignité de la personne, c'est-à-dire pouvoir se chauffer, pouvoir chauffer ses aliments, donc ça c'est la base. Et puis ensuite dans les déplacements, ça va être pouvoir assumer le rôle qu'on joue pour la société. Donc je peux être parent et donc je vais devoir emmener mes enfants à l'école, je peux être enfant d'un parent malade, il va falloir que je puisse aller prendre soin des gens que j'aime, que je puisse aller les voir, il faut que je puisse évidemment aller au travail. Donc tout ça, les gens ont le sentiment quand on leur demande de parler d'énergie que ce sont des usages de base à assurer. Mmh. Et donc là, on ne parle pas juste de petits centimes de plus à la pompe.
Bien sûr, vraiment, et pas seulement de voiture.
Toucher la dignité des gens. Oui. Ouais.
Est-ce qu'avec une taxation comme ça, on peut être incitatif? Jacques Sapir faisait référence à la théorie de l'incitation. Est-ce qu'on peut inciter les gens sans leur proposer d'alternatives crédibles?
Alors, la taxe carbone, elle va donner une direction de fond aux acteurs économiques. Mmh. Donc c'est un outil intéressant, mais ça fait partie d'une palette d'outils qu'il faut activer ensemble et de manière cohérente. Parce que là, si on parle de la mobilité, il s'agit d'un système très complexe, avec plein d'acteurs, des mouvements complexes. Et une seule taxe carbone n'est pas une indication suffisamment informative pour réorganiser tout ce système de mobilité.
Vous voulez dire qu'on considère la question de façon trop étroite ou que ce qui est fait est insuffisant ?
C'est insuffisant. Mais en même temps, ça peut se comprendre parce que dans les théories économiques actuelles, la mainstream, la taxe carbone, elle s'inscrit très bien dans le cadre de vision de l'être humain, un peu homo economicus. Donc je donne une information carbone et tout le monde sait se réorganiser de manière optimale dans ce cadre, juste avec ce cadre-là. Mais en fait, non. L'économie n'est pas aussi fluide que ça. Les acteurs n'ont pas forcément une vision parfaitement optimale. Donc, il faut donner d'autres indications par une palette d'autres outils.
Et les décisions sont, oui, multifactorielles. Jacques Sapir.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire c'est une réflexion qui s'inspire beaucoup des modèles les plus standards de l'économie. Et on sait que ces modèles supposent que les agents ont une possibilité infinie de choix à leur disposition. Et qu'ils arbitrent effectivement à partir de l'information qu'ils auraient donnée par le prix dans un choix de mesure ou dans un choix de décision.
C'est le libéralisme.
Voilà, c'est pas le libéralisme. C'est fondamentalement la théorie néoclassique, même si elle a été revisitée par toute une série de grands chercheurs. Je pense par exemple au regretté Jean-Jacques Lafont, qui était mon collègue à l'École des hautes études, ou à Tirol. Mais on sait aussi que là, pour le coup, les agents, les consommateurs, ont très peu de choix. Et donc là, ça pose un problème, parce qu'on n'est pas justement dans le modèle tel qu'il était pensé par les théoriciens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les dépenses en carburant ont augmenté en proportion dans la structure des budgets des ménages depuis 1960. C'est très intéressant. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques mois par l'INSEE, qui a été réalisée par l'INSEE, elle n'a pas été publiée directement par l'INSEE, et qui montre qu'en 1960, les carburants représentaient 2,6% des dépenses des ménages. Aujourd'hui, ces carburants représentent 4,6%, ou plus exactement en 2007-2008. Et on peut penser qu'aujourd'hui, ça a même continué à monter, on est plus proche des 5%. Donc, premier point, il y a bien de toutes les manières un poids qui tend à s'accroître régulièrement de ces carburants. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que cette étude et beaucoup d'autres faisaient apparaître ce qu'on appelle des dépenses préengagées. Alors, les dépenses préengagées, c'est grosso modo ce qu'un ménage doit payer quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse pour sa consommation dans le mois. Il ne peut pas, justement, se décider de ne pas payer. Alors, c'est évidemment le loyer ou le crédit. Bon. Mais, bref, le point important, c'est qu'aujourd'hui, ces dépenses préengagées représentent en moyenne près de 40% du budget des ménages, et elles peuvent représenter jusqu'à 55 ou 60% pour les ménages les plus modestes, c'est-à-dire pour le décile 9 ou le décile 10 de la distribution. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important, et par rapport à ce qui reste à dépenser, c'est là où on voit qu'une augmentation, même en apparence minime, du prix du carburant peut justement déclencher un phénomène de colère comme celui des gilets jaunes.
Alors Nicolas Meillan, si je vous lis bien sur le site des Econoclasts, vous, votre priorité c'est quand même la réduction de la dépendance au pétrole, pas simplement à l'échelle des ménages.
Oui, alors c'est effectivement une des priorités. Je crois que le problème aujourd'hui de la taxe carbone, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi ils la payent. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de pédagogie, et les gens pensent, bah écoutez, la plupart des émissions, elles sont faites en Chine, aux États-Unis. Les États-Unis sortent de l'accord du climat. Pourquoi est-ce que c'est moi, en France, avec mon diesel, qui vais sauver la planète? Et donc, il faut revenir un peu sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on paye la taxe carbone? À quoi ça sert la taxe carbone? La première chose, alors l'autre point aussi, c'est que on paye cette taxe carbone, mais en même temps, il faut rappeler que plus de la moitié de l'empreinte carbone de chaque Français est importée, en hausse de 87% depuis 1990, et que on ne touche pas à ce carbone importé. Donc on touche
pollution
au 20%,
importée,
pas pollution importée, émission de CO2 importée, ce qui est différent.
Ouais.
Donc ça, c'est un premier point. Comment ça va les impacter? Eh bien, le changement climatique, le dérèglement climatique, concrètement, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas juste dire quelques degrés de plus, ça veut dire beaucoup plus de réfugiés. Beaucoup plus de réfugiés qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est un problème qui va être compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre aussi? Ça veut dire que nous allons, et je fais partie d'une association pour l'étude du pic pétrolier, Aspo France, nous nous dirigeons vers une contrainte sur la disponibilité de pétrole à horizon 2025. Notamment par le fait que depuis 2014, avec les prix du pétrole bas, nous avons eu un sous-investissement dans l'industrie du pétrole qui fait que nous aurons moins de champs qui seront mis en production. L'AIE a publié un rapport la semaine dernière où elle dit que en 2025, au rythme d'augmentation de la demande, il faut que les États-Unis passent de 5 millions de barils par jour à 15 millions de barils par jour. Donc on s'oriente vers une contrainte et il faut la préparer. Il faut la préparer parce que le pétrole, on s'en rend compte dès qu'il y a des grèves ou des entrepôts qui sont bloqués. En 4 jours, il n'y a plus d'essence. L'économie est bloquée.
Vos pistes pour ça?
Alors, les pistes, c'est déjà qu'il faut prioriser les usages du pétrole. C'est-à-dire qu'il faut, quand on peut s'en passer, le faire le plus rapidement possible. Où est-ce qu'on peut se passer de pétrole? En ville. Les personnes qui roulent tout seules dans une voiture à pétrole, qu'elle soit essence ou diesel, cet usage, il faut qu'il disparaisse. Parce qu'ils ont les alternatives. Ils ont des alternatives.
Comment le vous fuel, les en empêcher?
Comment vous les en empêcher? Ah, mais là, il y a un certain nombre de...
C'est ce que la fait la culture de la bagnole.
Non, mais Anne Hidalgo a annoncé une interdiction du diesel en 2024 et une interdiction de diesel essence en 2030. Donc, c'est très simple. Il faut juste que ça aille un tout petit peu plus vite.
Vous savez, moi, j'ai le souvenir, au début des années 90, quand j'allais travailler à Los Angeles, exactement à Santa Monica, et j'ai vu les péages avec des taux différentiels, suivant qu'on était seul dans la voiture, à 2, à 3 ou à 4. Ça, c'est déjà, je dirais, un système relativement simple, qui est ancien. Je rappelle, il a été mis en place dans l'agglomération de Los Angeles, je crois, en 1989 ou 1990.
Vous avez raison, Jacques. C'est vraiment la première solution à mettre, qu'on soit en ville, mais aussi en périurbain ou en rural. Le fléau, ce sont ces voitures qui pèsent 1,3 tonne avec un seul conducteur. 90% des trajets domicile-travail se font seuls. Et sauf qu'aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de remplir sa voiture, de covoiturer avec un collègue en milieu rural périurbain, il suffit que le site ait 300 employés ou être sur une zone d'activité avec 300 personnes pour pouvoir, avec les applications qui existent, trouver des gens qui pourront vous accompagner.
Là, je t'arrête immédiatement. Il faut faire attention quand on connaît la distribution des entreprises par nombre d'employés. Il y a énormément d'entreprises qui sont sous les 50 employés, même sous les 100 employés. Je crois que ça représente quasiment
80%. C'est pour ça que je parle aussi de zones d'activité. Mm-hmm. Mais ça, j'ai bien compris. Mais ce qui est important, c'est que tous ceux qui peuvent le faire, le fassent. Mm-hmm. Et ceux qui ne peuvent pas le faire ont d'autres solutions dans ce cas-là. Quelles sont les solutions? De rouler dans une voiture qui consomme moins de carburant, donc plus légère, moins puissante. Ça, c'est une première solution. Et la seconde, on commence à voir sur les voitures électriques, des voitures électriques d'occasion, puisqu'elles se vendent depuis quelques années. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir roulé dans une voiture électrique d'occasion pour moins de 100 euros par mois avec le coût de la voiture, de la batterie, de l'entretien, et avoir une voiture de location pendant 5 semaines. Et donc là, quand on a en tête qu'une voiture vous coûte, grosso modo, voiture d'occasion, entre 3 et 4 000 euros par an, 100 euros par mois, c'est un vrai bénéfice et c'est une vraie économie.
Rue Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier.
Nicolas Raillard, covoiturage, voiture électrique, quelles sont vos pistes chez Shift Project?
Alors, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Nicolas. Cependant, en complément de la voiture, en effet, on a analysé des solutions alternatives à la voiture qui permettent de venir complémenter l'usage de la voiture. Alors, on a étudié plusieurs domaines d'action. On a étudié le covoiturage dont Jacques parlait. On a étudié les transports publics express, alors qui sont spécifiquement adaptés au domicile travail pour les habitants du périurbain. C'est-à-dire que ce seraient des bus qui pourraient emprunter l'autoroute et donc avec quelques arrêts en départ de ligne et aller très rapidement au centre-ville, à la ville-centre de l'agglomération. On a étudié le vélo, évidemment, puisque 75% des trajets du périurbain font en fait moins de 10 km et 60% font moins de 5 km. Donc c'est une solution qui paraît adaptée.
Alors, simplement, quand on n'a plus de petits commerces dans son village ou dans sa petite ville, est-ce qu'on peut aller faire les courses en vélo?
Alors, il existe. Alors, ça dépend de la distance, effectivement, au commerce le plus proche. Il existe cependant des vélos qu'on appelle vélo cargo. En tout cas, disons que la gamme de vélos s'agrandit et permet de fournir de plus en plus de services. Donc, on a les vélos cargo qui permettent de transporter un, deux enfants, des courses. On a les vélos assistance électrique, cargo, les speed pedelec, donc qui sont des vélos électriques qu'on a débridés en vitesse, parce que les vélos électriques sont bridés à 25 km/h. Et donc, ça permet de couvrir une gamme, en tout cas une plage de population de plus en plus grande, d'usage de plus en plus grand, et de topologie de plus en plus grand. Donc, c'est une solution qu'on a aussi cherché à évaluer, et ça pourrait couvrir 10 à 30% en fonction des hypothèses, des kilomètres parcourus, y compris dans le périurbain.
Et sur les transports en commun, on est quand même à une époque où les petites lignes SNCF disparaissent. C'est compliqué de... Ouais.
Alors, le train, je ne connais pas forcément très bien le dossier, mais les infrastructures train sont aussi très coûteuses. Mm-hmm. Donc l'idée de faire des trajets, c'était des petites lignes, donc l'idée de faire des trajets assez courts, finalement on peut peut-être réussir à utiliser plus efficacement l'infrastructure routière déjà existante. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour mettre en place un système de covoiturage, un système vélo, un système de transport public express, on utilise l'infra existante. Et donc, ça se fait finalement à coût d'investissement par le public pour l'infra assez faible, qui est nécessaire, mais assez faible. Ouais, pour le vélo, ce serait, si on voulait un service vélo, des pistes cyclables très développées, ce sera à peu près 30 euros par habitant et par an. À cela, les ménages devraient ajouter 240 euros par habitant et par an pour s'équiper en vélo eux-mêmes, pour renouveler leur gamme de vélo quand le vélo est usé, etc. Mais cependant, ça leur permet d'éviter des trajets en voiture et donc d'économiser du carburant et le remplacement des voitures réguliers. Et ça fait économiser, si on l'estime, à peu près 400 euros. Vous voyez, sur 250 euros investis par le ménage, il en récupère 400 euros à la fin de l'année.
Nicolas Meillon, votre avis sur ce qui vient d'être dit ?
Je dis souvent que les solutions du futur sont a priori les solutions du passé. On n'a pas toujours roulé tous en voiture de 1,3 tonne. Et pourtant, avant, les gens se déplaçaient quand même. Comment les gens se déplaçaient avant les années 50, puisque le développement de la voiture en Europe date des années 50? Les gens se déplaçaient en train. Puisque toutes les villes, au début du XXe siècle, étaient équipées de tramways, et nous les avons enlevées pour donner de la place aux voitures, contrairement aux pays de l'Est qui les ont gardées. Et deuxièmement, on avait un réseau de trains extrêmement maillé. Les gens se déplaçaient en train. Et tout ce réseau a été abandonné. Pour quelles raisons? Pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, en gros, il nous reste un réseau de TGV, mais on ne va pas tous aller au boulot par le TGV. Ouais. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que le train électrique avec une électricité décarbonée, c'est une bonne solution pour se déplacer, mais elle doit être subventionnée puisqu'elle coûte plus cher. Et aujourd'hui, pour des logiques économiques, on est plutôt en train de fermer les lignes dont on a besoin que d'en ouvrir.
C'est pour ça que je le mentionnais. Ouais. Jacques Zapier, tout ça, ça pose également des questions fondamentales de choix d'urbanisme.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais réagir sur ce qu'a dit Nicolas Meillant. C'est vrai, aujourd'hui, on est face à une inflation de poids et de la puissance des véhicules qui est tout à fait stupéfiante. Rappelons-nous, en 1952-1953, une Dina Panhard transportait 4 personnes pour 28 à 32 chevaux, et pour un poids de 650 à 700 kilos, ça dépendait des modèles. Donc on mesure là, je dirais, tout ce qui s'est passé. Alors évidemment, on veut avoir des dispositifs de sécurité, etc. Mais une grosse partie du poids ne s'explique pas par ces dispositifs de sécurité. Donc là, oui, il y a un véritable problème, et ce problème doit interroger la conception même des voitures. Le deuxième point qui me semble évidemment tout à fait central, c'est dans quelle ville voulons-nous vivre, ou plus précisément, comment avons-nous perdu le contrôle sur notre environnement urbain? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est évidemment le phénomène de rurbanisation, qu'on a tous évoqué à un moment ou à un autre, le fait que pour des raisons de spéculation immobilière, et je renvoie là les auditeurs et les gens qui nous regardent à une précédente émission où on en avait beaucoup parlé, pour des raisons de spéculation immobilière, les gens aux revenus modestes sont repoussés en périphérie des agglomérations. Mais qui dit périphérie des agglomérations dit problème pour venir dans l'agglomération centrale qui, elle, conserve toujours ses grandes fonctions, que ce soit en fonction de services, fonction d'un certain type de commerce, ou alors qui pose d'autres problèmes pour le transport d'une périphérie à une autre. Et on sait très bien, il suffit de regarder sur l'agglomération parisienne, quand on habite, je ne sais pas moi, Épinay-sur-Orge, aller à Paris, c'est relativement facile. Par contre, aller d'Épinay-sur-Orge dans une autre banlieue, c'est très souvent quelque chose d'extrêmement difficile. Et j'ai le souvenir d'un de mes collègues qui habitait du côté de Saint-Michel-sur-Orge quand nous étions l'un et l'autre professeurs à l'université de Nanterre, qui avait tenté de prendre sa voiture pour faire Saint-Michel-sur-Orge-Nanterre et qui avait conclu qu'il mettait 1h30 pour faire ce déplacement. Donc voilà, il y a bien là un problème majeur aujourd'hui, et c'est un problème qui ne pourra se traiter que dans le long terme.
Nicolas Rayard, une question structurelle, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, en effet, il y a ce problème d'étalement urbain, et d'ailleurs ça me fait penser au Grand Paris Express, là, ce qu'évoquait Jacques. C'est-à-dire que le Grand Paris Express, en fait, ne va toucher que la première couronne d'Île-de-France. Donc ne va pas résoudre ces problèmes typiquement périurbains. Ça ne va toucher que de l'urbain dense. La grande couronne parisienne, c'est de l'urbain dense. Donc ça ne va pas résoudre ce type de questions. Effectivement, il faut remettre de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire ramener du service public, y compris dans le rural et dans les villes moyennes et petites en France. Il y a Olivier Razomont qui a sorti un livre il y a de ça 2 ans, qui explique en quoi, notamment l'arrivée des hypermarchés en périphérie des grandes villes, fait disparaître le tissu commercial en centre-ville. Et donc, les gens ne sont plus incités à rester dans le centre-ville et vont déménager, ce qui participe à l'étalement urbain. Donc, cette remise de fonctionnalité à côté de là où les gens habitent, évidemment, et la fuite des services publics qui va avec et qu'il faut réussir à stopper et à ramener dans les centres-bourgs.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ce genre d'initiative, c'est dans l'air du temps? Est-ce que ça doublerait cette décision sur la taxe carbone?
Je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps. Je ne pense pas qu'on ait ce type de réflexion qui est quand même assez long terme. On a une inertie assez forte du parc d'habitat. Donc
je posais la question de faussement naïve pour faire référence à ce que disait votre camarade de think tank de Shift Project, Mathieu Ozano. Il estimait récemment dans une interview au site Reporter qu'une telle taxe, si elle n'était pas doublée de solutions alternatives réelles proposées aux gens, elle ne pourrait faire que le jeu de l'extrême droite. C'était ce qu'il disait.
Si on regarde la courbe des votes FN par rapport à la distance au centre de l'agglomération, on voit qu'à 30-40 km du centre de l'agglomération, on a un pic de vote Front National, Rassemblement National. Donc c'est un sujet qui s'exprime ensuite dans les votes, qui crée du mécontentement de fond, et c'est vrai qu'il faut une politique cohérente, urbanistique, donc de long terme, mais aussi sur des solutions un peu plus court terme. Il faut rendre cette cohérence aux politiques qu'on propose et l'expliquer clairement aux citoyens.
Nicolas Meillon.
Oui, juste un exemple, on parlait du logement, mais ça marche aussi pour les entreprises. Un seul exemple, EDF. Son siège était installé à Clamart. Clamart qui est desservi par le tramway. Mmh. Excellente nouvelle. Il est desservi par le tramway, qu'est-ce qu'on fait? On le ferme et on l'emmène à Saclay, qui n'est pas desservi par les transports en commun. Et donc là, on est dans l'absurdité la plus totale. Donc c'est vrai pour les personnes qui vont de plus en plus loin, mais c'est aussi vrai pour les entreprises qui sont venues s'installer beaucoup autour de Vélizy, de Saclay, ensuite des régions parisiennes, des régions mal desservies par le transport en commun. Et donc là, on aggrave le problème.
Jacques Zapier, le mot de la fin.
Oui, tout à fait. Et derrière ça, il y a toujours la question du coût. Que ce soit pour les gens pour se loger, que ce soit pour les entreprises pour construire des sièges sociaux, ou plus précisant, quand elles revendent avec un gros bénéfice des sièges sociaux qui sont dans des zones dont le prix a fortement monté pour aller se réinstaller après dans des zones où le prix est beaucoup plus faible. Oui, on a bien un problème. Donc, il faut comprendre que derrière cette actualité immédiate que l'on a de la révolte des Gilets jaunes, on a toute une série de problèmes qui sont des problèmes vraiment tout à fait centraux, mais qui sont des problèmes qui impliqueraient une véritable planification, en tous les cas, un mode de pensée planifié, pour pouvoir être résolu. C'est la question, évidemment, de la consommation carbone, de la consommation de carburant, c'est la question du poids des véhicules, et là, c'est tout à fait évident, nos véhicules ont doublé de poids pour grosso modo le même service, c'est la question de l'organisation urbaine, c'est la question aussi de la répartition des services et d'une véritable politique de service public. Alors, ce qui est intéressant, et ça sera peut-être un mot sur lequel on pourrait tous se retrouver d'accord, c'est le fait qu'une mobilisation qui commence aujourd'hui pour ce qu'il faut bien appeler un épiphénomène, justement l'augmentation du prix du diesel, met en jeu, en fait, tout le mode d'organisation et de vie que nous avons adopté depuis 30 à 40 ans. Et là, on voit que l'on est bien sur une question centrale.
Nicolas Meillon, rapidement.
Non, je rejoins Jacques. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'une vision systémique et pas des petites mesures à droite ou à gauche. Et nous avons eu un débat en 2014-2015, le débat national de la transition énergétique, qui n'était que là pour valider la proposition du candidat Hollande, qui finalement n'a pas été retenu. Il est temps d'avoir un vrai débat sur cette transition énergétique, en parlant de pollution, en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, en parlant de pétrole, en parlant de solidarité, en parlant de tous ces sujets, avec une vision systémique pour qu'on puisse, en 10, 15, 20 ans, accompagner. Le principal challenge, c'est que cette discussion, malheureusement, elle ne se fait pas au niveau français. Si on veut avoir un impact, ça se passe au moins au niveau européen. Et là, c'est là où ça commence à se compliquer.
Nicolas Rayan.
Ah oui, je confirme tout à fait ce manque un peu de débat démocratique de fond et systémique. Moi, je l'ai un peu plus vécu via les assises de la mobilité, où on était appelé à consulter avec le Shift Project, et où en fait, les débats n'étaient pas tant sur que faire d'un point de vue systémique, mais comment promouvoir la voiture électrique. Nous, on a essayé de rehausser le débat le plus possible, en partant un peu plus des usages, des modes de vie, etc. Mais ce n'était tout simplement pas l'objet de la consultation.
Voilà, en tout cas, Jacques Sapir, vous parliez de planification. Je crains que vous vous fassiez traiter de bolchévique dans les commentaires sur YouTube. En tout cas, ne pas laisser tout au marché. Je pense que tous les trois, vous serez d'accord avec cette phrase. Nicolas Maillan et Nicolas Raillard, merci à vous deux d'être passés par chez nous. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous tous, les auditeurs, cette émission et toutes les autres sont à retrouver en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site. Un numéro préparé avec Jean-Baptiste Mendès et mis en onde et en image par messieurs Pitchy, Pika et Darwin. Merci à tous. On se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salutations.
This is a provocation. Let them do.
No. No. No.